Retour au point nodal. Chapitre 1. Les rêves précédèrent la lumière, des images que rien ne reliait entre elles et qui formaient des séquences privées de sens. Elle revoyait des couleurs et des formes géométriques sans se rappeler à quoi remontaient ses souvenirs. Elle s'était répété « Je suis Nicole, je dois être toujours en vie ». Mais il y avait très longtemps de cela. Elle avait vu depuis des scènes complètes, des visages. Elle avait reconnu Homais et son père. La tristesse l'accablait lorsqu'elle s'éveillait. Richard avait été présent dans ses derniers songes. Cathy également. Ils sont morts tous les deux, avant que je m'endorme. Elle ouvrit les yeux et ne vit rien. Les ténèbres étaient totales. Lentement, elle baissa les mains et toucha une substance très souple. Elle bascula sur le flanc sans le moindre effort. « Je dois être en apesanteur. Mais où ?» se demanda-t-elle avant d'être une fois de plus vaincue par le sommeil. Puis elle remarqua un point de lumière à l'extrémité opposée de la cuve. Elle remua les orteils pour les dégager de la mousse et leva les pieds. Elle les vit à contre-jour. Elle tendit ses jambes sans pouvoir atteindre la source de clarté. Nicole plaça ses mains devant ses yeux. La luminosité était trop faible pour qu'elle pût discerner autre chose que leur contour. Elle manquait de place pour s'asseoir, mais elle toucha le couvercle du bout des doigts en soulevant avec l'autre bras. Il y avait sous la mousse protectrice une surface dure. Cette activité l'épuisa. Elle avait le souffle court et son pouls s'emballait. Elle se remémora ce qui s'était passé avant qu'elle ne s'endorme. L'aigle m'est apparu. Je venais de trouver cet enfant dans le domaine de l'alternative. Où suis-je à présent? Combien de temps ai-je dormi? On donna quelques coups secs sur le sarcophage et elle se rallongea. On vient me chercher. Je recevrai bientôt des réponses à mes questions. Le couvercle se souleva lentement et elle protégea ses yeux de la lumière. Elle vit l'aigle et entendit sa voix. Ils étaient assis dans une vaste pièce. Tout était blanc ici. Les parois, le plafond, la petite table ronde et même les sièges, la tasse, le bol et la cuillère. Nicole but une gorgée de soupe chaude à la saveur de consommé de volaille. Elle vit sur sa gauche le caisson où elle avait dormi et rien d'autre. Environ 16 ans, en temps relatif, cela va de soi, disait l'aigle. Temps relatif, pensa-t-elle. Le terme qu'employait Richard. Nous n'avons pu ralentir votre vieillissement aussi efficacement que les fois précédentes, car les circonstances nous ont obligés à improviser. Malgré la pesanteur, le moindre mouvement était pénible. Ses muscles avaient manqué pendant trop longtemps d'exercice. L'aigle avait dû l'aider à aller de son sarcophage à la table. Ses mains tremblaient. « J'ai donc 80 ans ?» demanda-t-elle d'une voix chevrotante qu'elle reconnut à peine. « À peu de choses près, » répondit l'extraterrestre. Elle le dévisagea. Il n'avait pas changé. De chaque côté de son bec saillant, ses yeux bleus n'avaient pas perdu de leur éclat. Sa crête, d'une blancheur immaculée, contrastait avec le plumage gris de sa face, de son cou et de son dos. Les 4 doigts de ses mains d'un blanc crémeux et privés de plumes étaient lisses comme ceux d'un enfant. Nicole regarda pour la première fois ses propres mains. Elles étaient plissées et tachetées.
« Vous ne vieillissez pas ?»
lui demanda-t-elle.
« Pas selon l'acception que vous donnez à ce terme. Je bénéficie d'une excellente maintenance et on remplace régulièrement mes sous-systèmes défectueux.
Vous ne mourrez donc jamais ?
Il hésita un instant. Comme tous mes semblables, j'ai été créé dans un but bien précis. Le jour où on n'aura plus besoin de moi, on me déconnectera.
Nicole manqua pouffer.
Excusez-moi, fit-elle. J'ai conscience que ce n'est pas amusant, mais le mot que vous venez d'employer est comique. Déconnecté équivaut à...
C'est bien cela. Des batteries m'alimentent. Si je deviens inutile, on les récupérera pour en faire bénéficier un tiers.
L'équivalent d'une transplantation d'organes.
En quelque sorte, ce qui m'amène à aborder un autre sujet. Pendant ce long somme, votre cœur a cessé deux fois de battre. La dernière à notre arrivée dans le système de Tau Ceti. Nous vous avons maintenu en vie grâce à des médicaments et à une stimulation mécanique, mais votre système cardiaque est en piteux état. Pour pouvoir poursuivre vos activités, il faudra envisager son remplacement.
Est-ce pour cette raison que vous m'avez laissé moisir là-dedans si longtemps ?
Demanda-t-elle en désignant son sarcophage.
En partie, répondit l'aigle.
Il venait de lui expliquer que les autres passagers de Rama avaient été réveillés bien avant elle et vivaient à bord d'un vaisseau différent.
Nous nous préoccupions également de votre confort. Nous avons réarmé une étoile de mer en toute hâte et les commodités y manquent. Nous avons aussi tenu compte du fait que vous êtes la doyenne des humains.
C'est exact. J'étais déjà la plus âgée de la colonie quand l'attaque des octopodes a tué tous les individus de plus de 40 ans.
Par ailleurs, nous tenons tout particulièrement à vous. Vous avez joué un rôle capital dans cette entreprise.
L'aigle semblait ému.
Est-il possible qu'une créature électronique ait des sentiments ? Richard avait-il raison de dire que toutes les facettes qui caractérisent les êtres humains peuvent être artificiellement reproduites ?
Nous avons attendu afin de réduire la durée de votre séjour dans un milieu où les conditions d'existence laissent pour le moins à désirer. Mais nous voici au début d'une nouvelle phase de cette opération. Ainsi que vous pouvez le constater, cette pièce a été vidée de tout son contenu. Dans 8 jours, nous démonterons ses parois. D'ici là, vous aurez repris des forces.
Nicole voulut obtenir des renseignements sur sa famille et ses amis.
Comme je vous l'ai déjà dit, tous ont survécu à la période de stase, mais leur adaptation à la vie dans ce que votre ami Max appelle le Grand Hôtel n'a pas été facile. Tous ceux qui ont vécu avec vous dans la cité d'Émeraude, plus Maria et le mari d'Ali, se sont vus attribuer 2 logements adjacents. Ils savaient que c'était temporaire, mais Robert et Galilée n'ont pu accepter ces conditions d'existence.
Que sont-ils devenus ?
Pour des raisons sociologiques, nous avons dû les transférer dans un autre secteur du vaisseau. Robert a sombré dans une profonde dépression et est décédé peu après. Galilée se porte bien, mais sa conduite est toujours asociale.
Nicole fut peinée par la mort de Robert.
Pauvre Nikki, elle n'aura pas eu la chance de connaître son père. Quant à Ali, son mariage a été un fiasco. Vous étiez difficile à cerner, Robert. Vous aimiez votre travail et vous aviez du talent, mais également trop de problèmes personnels. Il est possible qu'un élément essentiel de votre être se soit brisé il y a longtemps. Là-bas, dans ce tribunal du Texas, sur un monde appelé la Terre. Il était inutile que je m'efforce de convaincre les octopodes de sauver Cathy et Robert.
C'était important à vos yeux.
Elle sourit et le regarda.
Eh bien, mon ami omniscient, je suis heureuse de bénéficier comme autrefois de votre compagnie. Vous n'êtes peut-être pas vivant, mais vous avez beaucoup de sagesse.
Je vais vous aider à regagner votre lit. Vous devez veiller à ne pas vous fatiguer inutilement.
Nicole s'estimait satisfaite. Elle avait effectué un tour complet de la pièce sans s'arrêter.
« Bravo !»
dit l'aigle en venant la rejoindre.
« Vos progrès sont plus rapides que nous ne l'avions espéré.
Je boirai volontiers un peu d'eau. Je suis en sueur. »
Il alla chercher le verre sur la table. Elle se tourna vers lui sitôt après avoir bu.
« Vous m'aviez promis de m'apporter un miroir et des vêtements de rechange. »
« Tout est dans cette valise avec en prime des produits cosmétiques, mais je voudrais en premier lieu m'assurer que votre cœur n'a pas trop souffert de cet exercice. »
Il leva une petite boîte noire devant sa poitrine et regarda ce qui apparaissait sur un écran minuscule.
« C'est parfait, rien d'anormal.
Je peux voir ?»
S'en quit-elle en désignant l'appareil qu'il lui tendit aussitôt.
« Je suppose que ce machin reçoit des signaux de l'intérieur de mon corps, mais que signifient ces étranges gribouillis et symboles ?»«
Vous avez en vous plus d'un millier de sondes qui contrôlent le fonctionnement de votre cœur et d'autres organes. Elles optimisent des fonctions biologiques et régularisent en outre des paramètres tels que le débit sanguin, et la répartition de l'oxygène. Vous voyez sur cet écran un résumé des données enregistrées pendant que vous marchiez, compressées et retransmises par un processeur enchâssé dans votre corps.
« J'aurais mieux fait de me taire, »
marmonna-t-elle.
« Penser que je suis truffé de gadgets électroniques ne me rassure guère. »
Ces sondes ne sont pas à proprement parler électroniques et elles jouent un rôle essentiel. Sans elles, vous ne survivriez pas un seul jour.
Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir? Auriez-vous encore besoin de moi?
Ce n'est pas à exclure, et nous avons estimé que vous souhaiteriez peut-être revoir vos proches une dernière fois.
« Je ne peux croire que vous accordiez tant d'importance à mes désirs. »
Sans répondre, l'aigle alla ouvrir la mallette qu'il avait posée sur le sol à son arrivée. Il en sortit un miroir, un linge humide, une robe bleue et un nécessaire de maquillage. Nicole retira sa chemise de nuit blanche, se lava et s'habilla. Elle inspira à fond quand l'aigle lui tendit la petite glace.
« Je ne suis pas certaine d'être prête à me voir, »
avouait-elle en arborant un sourire sans joie. Elle ne se serait pas reconnue si elle ne s'y était pas préparée. Son visage était un patchwork de poches et de rides. Ses cheveux, ses sourcils et ses cils étaient plus blancs que gris. Elle retint ses larmes.
« Mon Dieu, je suis si vieille. Est-ce bien moi ?»
Elle rendit le miroir à l'aigle.
« Vous m'aviez averti. J'aurais dû vous écouter. »
« Vous ne vous étiez pas vu depuis 16 ans. La plupart des humains acceptent mal de vieillir, même lorsqu'ils sont chaque jour témoins du processus. »
Il lui remit la trousse à maquillage.
« Non merci, »
dit-elle.
« Ce serait peine perdue. »
« J'ai pensé que vous voudriez être à votre avantage pour recevoir votre visiteur. »«
Un visiteur ?»
répéta-t-elle, à la fois heureuse et angoissée.
« Qui est-ce ?»
Elle tendit la main vers les cosmétiques.
Je préfère vous laisser la surprise. »
Nicole se mit du rouge à lèvres et du fond de teint. Elle brossa ses cheveux blancs et redressa ses sourcils. Puis elle lorgna dans le miroir et déclara
« Je ne pourrais pas faire mieux. »
Peu après, l'aigle ouvrait la porte et sortait. Il revint avec un octopode.
« Bonjour Nicole, comment allez-vous ?»«
Docteur Bleu !»
s'exclama-t-elle, ivre de joie. Le docteur Bleu avait levé le petit appareil devant la poitrine de Nicole.
« Je vous tiendrai compagnie jusqu'à votre transfert. L'aigle a pour l'instant d'autres occupations. »
Des traits colorés défilaient sur le petit écran.
« Je ne comprends pas. Quand il s'est servi de ce machin, je n'ai vu que des gribouillis et d'étranges symboles. »
« C'est leur langage technologique polyvalent. Il est bien plus précis que nos couleurs, mais je ne le connais pas. Cet appareil est polyglotte. Il a même un affichage en anglais. »
« Comment vous entretenez-vous avec l'aigle ?»«
Nous nous exprimons dans ma langue. Les couleurs défilent sur son front de gauche à droite. »
« Vous plaisantez ?»«
Pas du tout. C'est un être extraordinaire. » Il jacasse et pépille avec les aviens. Il couine et siffle avec les myrmichas.
C'était la première fois que Nicole voyait l'octopode employer le terme « myrmicha ». Elle lui demanda de leurs nouvelles et il expliqua que 6 de ces créatures vivaient au Grand Hôtel et que 4 autres étaient sur le point de sortir de Pastèque Man, arrivés à maturation.
Vos semblables et les miens ont dormi tout au long du voyage, mais les Pastèque-man ont continué de mûrir. Nous en sommes déjà à la 2e génération de Myrmicha et de Cécile.
Le docteur Bleu posa l'appareil sur la table.
Alors, quel est votre diagnostic?
Vous reprenez des forces, cependant vous vivez uniquement grâce aux sondes qu'on vous a injectées. Il faudra tôt ou tard envisager
une transplantation cardiaque, je sais. J'avoue que cette perspective me déplaît. Je ne pourrai pas dire pourquoi. Peut-être parce qu'il me manque une raison de vivre. Si Richard était encore là...
Elle s'interrompit en revoyant défiler au ralenti les images des dernières secondes de la vie de son mari. C'était la première fois qu'elle pensait à cet instant tragique depuis son réveil.
« Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?»
s'enquit-elle.
« Je vous en prie.
Nous avons assisté ensemble à la mort de Richard et d'Archie. Le choc a été si grand que j'ai perdu connaissance. Votre compagnon de toujours a été assassiné en même temps, mais... « Vous m'avez réconforté. N'étiez-vous pas terrassé, vous aussi ?»«
On nous enseigne depuis la naissance à contrôler ce que vous appelez les émotions, »
répondit le docteur Bleu après un moment de réflexion.
« Les alternatives sont naturellement comme vous. Excusez-moi, mais je ne me référais pas à votre espèce en général. » Je vous posais cette question en tant qu'ami. »
Une explosion de pourpre, puis de bleu.
Oui, j'ai ressenti une impression de perte, mais je le savais condamné. Il avait été inscrit sur la liste des éliminations lorsqu'il s'était déclaré favorable à une riposte militaire. En outre, vous aviez besoin de moi.
La porte s'ouvrit. Et l'aigle entra avec un grand carton de nourriture, de vêtements et d'articles divers. Il informa Nicole qu'il lui apportait sa combinaison spatiale et qu'elle devrait sous peu s'aventurer hors de l'environnement pressurisé où elle vivait actuellement.
« Le docteur Bleu m'a déclaré que vous parliez son langage. Pourriez-vous me faire une démonstration ?»«
Que voulez-vous que je dise ?»
demanda l'aigle en faisant défiler des traits de couleur sur son front.
« Ça suffira comme ça !»
fit Nicole en riant.
« Vous êtes vraiment un être hors du commun !»
Nicole était à l'intérieur de l'immense atelier et regardait la pyramide. Sur sa droite, à moins d'un kilomètre, des biotes spécialisés, dont deux bulldozers géants, érigeaient une montagne.
« Pourquoi faites-vous ceci ?»
s'enquit-elle en parlant dans le microphone de son casque.
« Nous préparons le cycle suivant !» répondit l'aigle. « Nous avons déterminé que ces reliefs augmenteront les chances de succès de l'expérience. »
« Vous disposez donc de renseignements précis sur les espèces spatio-pérégrines que vous étudierez ensuite. »«
Je l'ignore. Je ne participerai pas à la prochaine mission de Ramma. » »«
Vous n'apportez pourtant à ce vaisseau que les modifications absolument indispensables. » »«
Je ne peux vous renseigner. Montez dans le véhicule. » Le docteur Bleu souhaite voir cette montagne de plus près.
L'octopode avait une bien étrange allure dans sa combinaison spatiale. Nicole n'avait pu s'empêcher de rire en la voyant dans cette tenue blanche moulante qui recouvrait son corps gris anthracite et ses tentacules. Le docteur Bleu portait un casque transparent qui permettait à son entourage de lire facilement ses propos. Leur véhicule se dirigeait vers l'éminence quand l'octopode déclara à Nicole
« J'ai été sidéré lors de ma première sortie. Non, ce mot n'est pas assez fort. Vous m'aviez dit que nous étions dans un hangar où on préparait Ramma pour un nouveau voyage, mais je ne m'attendais pas à voir des choses pareilles.
Nous avons construit la pyramide autour de votre sarcophage pendant que vous dormiez. »
précisa l'aigle,
sans quoi nous aurions dû vous réveiller bien plus tôt.
Nicole se tourna vers son ami octopode.
Alors, docteur, vous ne vous demandez toujours pas quels êtres ont élaboré ce projet grandiose et créé des intelligences artificielles telles que l'aigle? Il est presque impossible d'imaginer.
Pas pour nous qui avons côtoyé les précurseurs à l'aube de notre histoire. Nous n'avons à aucun moment cru que nous représentions ce qu'il y avait de mieux en matière d'être vivant.
Nous ne nous bercerons plus jamais d'illusions. Le cours de l'histoire de l'humanité a été irrévocablement modifié.
N'en soyez pas certaine,
fit l'aigle.
Les prises de contact n'influencent pas systématiquement toutes les espèces. Nous veillons à réduire leur durée et à les limiter à un nombre restreint d'individus. Il n'y a une interaction continue que si les peuples étudiés en prennent l'initiative. Je doute que sur Terre la vie soit très différente de ce qu'elle aurait été si Ramma n'avait jamais traversé le système solaire.
Nicole se pencha en avant.
Des faits. Viennent-ils étayer cette supposition ?
La réponse de l'aigle fut évasive.
Il est indéniable que les passages de Ramma ont altéré votre histoire. Des événements importants n'auraient jamais eu lieu sans eux. Mais dans un siècle ou cinq, cela fera-t-il encore une différence ?
Le point de vue des hommes a forcément changé. Pourront-ils oublier qu'il existe dans l'univers une espèce assez évoluée pour construire un vaisseau aussi grand qu'une ville? Cela ouvre de nouvelles perspectives. Tous les concepts en matière de religion, de philosophie et même de biologie ont dû être révisés.
Je suis heureux de constater que vous avez conservé votre optimisme et votre idéalisme,
l'interrompit l'aigle.
Mais les humains du Nouvel Éden savaient qu'ils vivaient dans un habitat construit à leur intention par des extraterrestres.
Vous les aviez informés qu'ils seraient placés sous observation constante, mais ils n'en ont plus tenu compte sitôt après avoir compris que nous n'interviendrions pas dans leurs activités.
Le véhicule atteignit le pied de la montagne.
Je voulais venir ici par pure curiosité,
déclara le docteur Bleu.
Notre domaine raméen était pratiquement plat et la région de notre planète où j'ai vécu quand j'étais juvénile n'avait guère de relief. J'ai eu envie de me dresser au sommet. J'ai réquisitionné un bulldozer,
leur dit l'aigle.
Nous atteindrons la cime dans 10 minutes. L'ascension abrupte risque de vous impressionner. Mais vous ne courez absolument aucun danger si vous ne débouclez pas votre ceinture de sécurité.
Nicole n'était pas trop âgée pour pouvoir apprécier l'aventure. Cet engin aussi gros qu'un immeuble n'avait pas de siège confortable et ses cahots étaient violents, mais la vue justifiait amplement l'inconfort. L'éminence avait plus de 1000 mètres d'altitude et environ 10 kilomètres de circonférence. Nicole vit la totalité de la pyramide où elle vivait sitôt qu'ils eurent gravi un quart de la pente. Plus loin, dans toutes les directions, des chantiers pointillaient l'horizon.
« Tout recommence »,
pensa-t-elle.
« Ce ramas reconstruit visitera de nouveaux systèmes. Et qui trouvera-t-il ? Quels êtres fouleront après nous les pentes de cette montagne ?»
L'engin s'arrêta sur un plateau à proximité du sommet et les trois passagers débarquèrent. Ils avaient d'ici une vue à couper le souffle. Nicole se rappela l'émerveillement de son entrée dans Rama lorsqu'elle était descendue par le télésiège et avait découvert l'immensité du vaisseau.
« Merci, »
dit-elle mentalement à l'aigle.
« Merci d'avoir prolongé mon existence. Ce spectacle et les souvenirs qu'il ravive le justifient amplement. »
Elle se tourna vers le haut de la déclivité et vit une chose de petite taille traverser des excroissances broussailleuses rougeâtres. Elle alla capturer un de ces êtres volants. Il ressemblait à un papillon aux ailes décorées de motifs asymétriques. Elle le libéra et en attrapa un autre. Les dessins de ses ailes étaient différents, mais tout aussi magnifiques. L'aigle et le docteur Bleu vinrent la rejoindre. Elle leur montra la créature qu'elle gardait dans sa paume.
« Des biotes aériens !»
dit l'aigle, sans fournir de précision. Nicole était émerveillée.
« Il se passe chaque jour des choses stupéfiantes, »
lui avait dit Richard,
« et elle nous rappelle constamment quelle joie peut procurer le simple fait d'être en vie. »